C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
J'aime beaucoup votre premier sujet, cher commissaire, parce que c'est une question qui est intéressante. La voici. À peu près le quart des élèves des cégeps échouent l'épreuve de français en raison des fautes d'orthographe. Est-ce qu'on devrait leur permettre d'utiliser un logiciel pour justement corriger? Puis il y en a quelques-uns qui existent. Là. Autrement dit, ils savent pas écrire, fait qu'on peut-tu les aider sur le plan informatique? Luc?
Mais toi, tu rigoles, sauf que la ministre dit qu'elle s'est dit ouverte, Mme Mécan s'est dit ouverte à la question, et la Fédération des cégeps du Québec pousse pour que ça se fasse.
On va, il faut les équiper en antidote.
Ouais, c'est ça. Alors, d'abord, faut regarder toute la patente là, pour voir que c'est pas juste un test d'orthographe bête. Là. C'est un test de français dans lequel il y a plusieurs dimensions, le vocabulaire, la syntaxe, la ponctuation, l'orthographe, la compréhension du texte, etc. Et les résultats pour toutes les autres dimensions sont extraordinaires. Comme par exemple, vocabulaire, c'est 99,9% de succès. Moi, je sais pas, là, regardez autour de vous. Est-ce que vous trouvez que les gens possèdent leur vocabulaire à 99,9%?
Je te dirais non, mais je te dirais... Non, mais je te dirais, pour faire de la ligne ouverte depuis longtemps, la qualité et l'esprit de
synthèse,
ouais, c'est nettement amélioré.
Moi aussi, je trouve ça.
Au fil des ans, là, je sens... C'est pas parce que c'est des gens qui ont nécessairement une grande éducation, c'est que les gens ont appris à communiquer. Verbalement, je te dis,
oui,
oralement.
Oui.
Là, je te dis pas que ça avait écrire autant.
Bon, l'écrit, ça dépend. Mais attends, mais 99,9%, Paul. Y a-tu quelque chose dans lequel le monde performe à 99%? Donc, cette statistique...
Le taux de vaccination, selon le docteur, c'est la cible.
C'est ça. Non, mais ce que ça nous dit, ça nous dit que l'objectif du test, comme n'importe quel autre test, c'est de faire passer le monde. Mm-hmm. Tu sais, tout le système d'éducation est fait comme ça. On essaie de faire rouler par en avant ou vers le haut les jeunes, parce qu'on se dit, on va-tu les arrêter, mettons, en secondaire 3, un jeune qui a des difficultés, est-ce que je vais le faire redoubler? Est-ce que je vais le bloquer dans son apprentissage? Non, je vais tenter de le faire progresser vers la porte, vers le haut, parce que je vais pas l'arrêter un an, deux ans, pour des difficultés particulières, alors qu'il y a peut-être d'autres compétences extraordinaires, puis qu'il va faire son chemin dans la vie, etc. Toute cette philosophie-là s'arrête à une affaire. Le test uniforme de français et la partie dans le test qui est l'orthographe. Parce que toutes les autres parties, c'est comme le reste. Ah ouais, passe, on va faire ça le moins facile, le moins difficile possible. Mais il y a une partie qui bloque, qui est l'orthographe, le verrou qui bloque l'orthographe. Et dans l'orthographe, tu as quand même le droit à 30 fautes sur 900 mots. Puis même si tu fais 30 fautes, tu couleras peut-être pas parce que l'orthographe constitue juste une partie du résultat final, si bien qu'avec les autres résultats, il y a seulement 15% des gens en bout de ligne qui échouent. Alors, ce que nous dit la Fédération des cégeps, c'est nous, on veut pas bloquer personne. On ne veut plus bloquer personne. Puis surtout pas nous, on veut pas avoir cette seule responsabilité-là parce que toutes les autres nous poussent les mauvais étudiants vers nous, des étudiants qui ont des lacunes, pas des mauvais étudiants, mais des gens. Et là, c'est ça, l'ultime barrière, ben nous, on veut faire sauter cette ultime barrière.
Nathalie.
Ben là, premièrement, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme société? Est-ce qu'on veut des meilleurs résultats lors des examens ou de l'examen de français du ministère ou on veut des jeunes qui savent écrire, parler et communiquer en français? Qu'est-ce qu'on veut? Moi, lorsque j'ai vu la nouvelle, je me suis dit, ben voyons donc, c'est quoi? On est rendu fou là? C'est comme si on acceptait de niveler par le bas en ayant recours à un logiciel antidote, là. Je me suis dit, pourquoi pas la bonne vieille grammaire Grévis, Bécherel. Puis je me demande, je vous pose la question, combien de jeunes aujourd'hui connaissent la grammaire papier? Combien de jeunes consultent nos bons vieux dictionnaires papier? Selon moi, ils sont pas des tonnes. Alors, et l'autre réflexe que j'ai eu, est-ce qu'on privilégie l'approche de l'obtention du diplôme à rabais? Et là, hier, en faisant une petite recherche, je me suis rendu compte que malheureusement, la situation n'a pratiquement pas évolué. Elle s'est peut-être même détériorée depuis 10 ans. La presse titrait le 12 novembre 2009, « Examen de français au cégep, pire taux d'échec en 10 ans ». On apprenait à ce moment-là que 19,2% des étudiants ont échoué à l'examen pour obtenir leur diplôme d'études collégiales. C'est à peu près la même situation qui prévaut aujourd'hui, en 2021. Alors, fondamentalement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système. On est incapable, après, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on fait des efforts pour permettre à nos jeunes d'améliorer le français, on met de l'avant toutes sortes d'approches. L'examen auquel tu réfères, Luc, là, le texte de 900 mots dans lequel tu peux faire 30 fautes, là. Ben, il y avait un débat en 2007. On disait, est-ce qu'on va simplement compter le nombre de fautes, puis c'est ça qui va faire foi du résultat, ou au contraire, nous allons privilégier l'approche holistique. C'est quoi l'approche holistique? C'est l'approche qui dit, ben, on va donner aussi une note aux jeunes pour la compréhension de son texte, pour la qualité de son argumentaire. Alors, c'est vers ça qu'on a
ou la qualité de ses running shoes.
Ou la qualité de ses running shoes. Enfin, non, mais tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose de dramatique et de triste. J'ai dit dramatique, oui, et sien, parce que le français, c'est fondamental. Tu le dis, Paul, il n'y a rien de parfait. Notre capacité de communiquer, c'est une chose. De bien écrire, c'est autre chose. Oui, la situation s'est améliorée. On a juste à se comparer à nos bons amis français, là, quant à l'utilisation des anglicismes pour se consoler, là. L'herbe est beaucoup plus verte au Québec que chez nos amis français.
Oui, mais pour la synthèse. Taxe, on repassera, par exemple.
Hein? Oui, je suis d'accord, mais enfin, on massacre la langue française. T'as juste écouté les nouvelles en France, et puis, ben, enfin, bref. Ça, c'est un sujet en soi. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a encore énormément de progrès à faire. Mais moi, après avoir dit tout ça, parce que les spécialistes en passant en didactique et en machin truc, là, ne s'entendent pas sur comment on devrait s'y prendre pour améliorer la qualité du français chez nos jeunes. Mais moi, je suis plutôt de l'approche, ouverte et moderne. Antidote, c'est un logiciel de correction anglais-français qui, en soi, là, juste en soi, comprend 10 dictionnaires. Alors, il faut être de notre temps. Alors, vivement la paix. Oui, tu peux effectivement permettre à un jeune d'avoir recours à ce logiciel, mais pas lors d'un examen, pas lorsqu'il est évalué. Moi, je trouverais ça pas correct de le faire.
Puis moi, je pense qu'il y a l'âge aussi. C'est-à-dire que pendant toute... Quand on décide de pousser des jeunes le plus possible vers l'avant, en secondaire 1, 2, 3, 4, 5, ça va. Mais quand tu as 18 ans, là, il y a un moment où tu dois faire face au cumul des savoirs que tu as eu depuis que tu es jeune. Puis là, c'est un vrai test. Puis on teste vraiment. Et c'est un vrai moment de passage aussi. Puis un moment de discipline, parce que ça prend de la discipline pour être bon en français. Puis c'est pas... En bout de ligne, si tu arrives à corriger ton orthographe et avoir une bonne syntaxe, etc., ton résultat, c'est pas juste que tu écris bien, c'est que tu as été discipliné. Tu sais, dans l'armée, quand on te fait faire de la marche au pas, là, puis c'est l'idée, c'est pas que tu marches au pas droite-gauche. Ben oui, je sais que ça c'est à droite puis ça c'est à gauche, mais l'idée, c'est que il y a une discipline que tu as acquise puis qui va te rester. Il y a eu des professeurs qui ont dit, mais en fait, on a-tu encore besoin de cette discipline-là? Regarde en mathématiques. T'as la calculatrice. Pourquoi en français, t'aurais pas Antidote? Mais c'est pas pareil du tout, du tout. Puis j'étais désolé d'entendre un directeur de cégep faire référence à la calculatrice.
Bernard Tremblay, oui, le directeur
parce que
de
la calculatrice, là,
cégep, la Fédération des cégeps.
Si, la calculatrice corrige pas, premièrement, si elle corrige pas tes erreurs d'inattention. Par exemple, si on te dit, le test, c'est tu dois franchir 18 km, mais t'arrêtes deux fois 15 minutes, puis tu roules à 60 km/h sur les premiers 9 km, puis à 75 sur les deuxièmes. Mais la calculatrice va pas faire le calcul pour toi, là. Puis si tu écris 19 km à la place de 18, la calculatrice va pas écrire, non, t'as fait une erreur, faut écrire 18, mais le français fait ça. Le correcteur de français corrige tes fautes d'orthographe, tes fautes de syntaxe, tes fautes de grammaire. Fait que là, c'est plus juste une calculatrice, un aidant au résultat. C'est littéralement quelque chose qui remplace ta pensée. Ça marche pas.
Oui. Mais c'est-à-dire que moi, je ne suis pas fermée à cette idée-là parce qu'on n'arrête pas le progrès. Mais en même temps, il faut que les jeunes comprennent pourquoi tel mot s'écrit de telle façon, pourquoi il y a des exceptions. Tu sais, il faut comprendre parce que la correction, c'est une chose. Mais pourquoi, tu comprends, on écrit tel mot de telle façon? En fait, il faut que les jeunes connaissent la base.
Mais il y a un échec de société
ça. Là. Écoute, ça fait 10 ans, plus de 10 ans, Luc, qu'on essaie. Oui. Puis on n'arrive pas à améliorer notre...
Je vous cite un courriel que j'ai reçu de quelqu'un qui, comme on dit, les deux mains là-dedans. Là. Mm-hmm. Lors de la dernière épreuve, le mois dernier, les étudiants ont eu accès à Antidote et les résultats n'étaient pas meilleurs.
Dans ce cas-là,
elle dit qu'il faut réussir la partie la langue, la partie contenu pour donc obtenir la note de passage. En principe, si l'étudiant fait plus de 30 fautes sur 900 mots, il devrait échouer, mais disons que les copies sont révisées plusieurs fois.
Ah.
Tu comprends? Non, attends, faire attends. Passer.
Si t'es pas capable voilà, de passer ton test de français avec Antidote, là, t'étais vraiment, t'avais vraiment un déficit, là. T'as une lacune. Parce que les 30 fautes, ils vont moins les voir. Ils vont voir.
Normalement, oui.
Donc, t'es pas bon non plus en syntaxe, en grammaire, en compréhension voilà. du texte. Alors.
Mais là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Ouais, oui, c'est ça. Mais Paul, tu viens de répondre à la question que je posais au départ. Qu'est-ce qu'on veut comme société? Des meilleurs résultats à nos examens de français? Pour permettre aux jeunes d'obtenir le diplôme d'études collégiales ou encore d'avoir des jeunes qui maîtrisent bien le français à tous égards.
Mais à un moment donné...
Mais là, tu viens de répondre à la question. Ouais. On corrige les copies trois fois pour être sûr que, garde, écoute, on va te donner un point, deux points.
Moi, je pense qu'à un moment donné, tu as besoin de discipline. Puis tu as besoin d'une discipline. Donc, une discipline qui t'oblige à avoir de la discipline. Et que c'est le français ou les mathématiques, mais que si tu... Parce que dans tout le reste, on sait bien que la société va dans l'autre sens. La Fédération des cégeps, on ne veut pas être tout seul à faire exercer cette discipline-là, mais c'est vrai que la société va dans l'autre sens. L'arrivée au travail, l'heure d'arrivée au travail n'est plus un critère. D'ailleurs, se présenter au travail ne sera plus un critère avec le télétravail. Les attentes signifiées ne sont plus souvent des critères pour décider si tu renvoies quelqu'un ou pas, etc. On laisse tomber, dans la plupart des cas, des normes de discipline puis des normes de résultats. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est pas une bonne idée? Moi, j'ai l'impression que c'est une mauvaise idée, mais ouais, peut-être les gens vont me dire...
Le goût de lire aussi, Luc. Le goût de lire, simplement. Tu sais, ça revient tout le temps, ça. Les spécialistes le disent, autant chez les jeunes garçons, chez les jeunes filles. Il faut intéresser nos jeunes à lire. Quand tu lis, évidemment, tu lis si tu lis pas mal dans ta vie, ça aide drôlement ton français à comprendre.
Mais tu sais, Nathalie, qu'un professeur qui exige la lecture d'un roman au complet, il va pas faire long feu, hein. Maintenant, ils impriment un chapitre. Puis il donne le chapitre à lire pour le prochain cours. Il ne demande plus lis au complet une dizaine de romans là, en littérature. Ça dépend à quel niveau, évidemment, mais dans tous les domaines, on diminue les attentes parce qu'on veut que les gens se rendent au bout puis qu'ils aient un travail. Puis d'ailleurs, on est en pénurie.
Mais c'est pour ça que t'entends les profs du secondaire dire que le primaire a mal préparé les enfants, puis les profs cégep dire que...
Le secondaire les a mal préparés.
Puis là, je te parle pas des profs d'université.
Ben oui, mais c'est là, il y a une épreuve verrou, là. Il y a une épreuve verrou. Non, celle-là aussi, on va la faire sauter.
On s'arrête là-dessus. Au retour, les anti-vaccins et leurs manifs devant les hôpitaux et les écoles.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, les manifs des anti-vaccins, hier devant des hôpitaux, la semaine passée devant les écoles, est-ce qu'on devrait être plus sévère? Nathalie.
Absolument, plus sévère, certains. Écoute, c'est inacceptable, totalement inacceptable. Il faut dire qu'il y a des dispositions déjà dans le code criminel qui prévoient des infractions si un méfait a été commis, si il y a de l'intimidation également, si on est reconnu pour une infraction en matière d'intimidation. Alors, tout ça est déjà prévu. Justin Trudeau et Jagmeet Singh souhaitent aller encore plus loin, amender le code criminel. Du côté des conservateurs, on propose même d'adopter une loi sur la protection des infrastructures essentielles pour éviter ce genre de manifestation. Honnêtement, là, on en aura le pompon des anti-vax. On en aura le pompon. Écoute, ils se permettent à peu près tout. Et puis je me demande de quoi ils se plaignent dans le fond, parce que on ne leur impose pas la vaccination. La vaccination n'est pas obligatoire au Québec, elle n'est pas obligatoire au Canada. Puis en plus, on leur donne toute la liberté possible pour qu'ils puissent exprimer leur frustration par rapport aux mesures sanitaires. Combien de milliers de personnes à Montréal en fin de semaine? Ils étaient combien de milliers là, dans les rues? On est en quatrième vague, on est confronté à la quatrième vague. Et notre démocratie fait en sorte, très permissive, la liberté d'expression aidant, évidemment, ils peuvent nous casser les oreilles comme bon leur semble. Et puis nous, on les regarde aller, puis on est très tolérants, mais là, à un moment donné, là, assez, c'est assez. Moi, je pense que là, à un moment donné, il faut que ça arrête. Et bravo au chef de parti de lever le ton. Mais à un moment donné, ça va prendre plus que ça. Rappelez-vous, première vague, on recevait des infractions parce qu'on se faisait prendre par la police, parce qu'on était quatre autour de la table. Là, ils sont des dizaines, des centaines à manifester devant les hôpitaux. Puis il y en a encore, il n'y a personne qui a été mis dans le panier à salade. Alors, qu'est-ce qu'on attend?
Ben, d'abord, il y avait deux des organisatrices, là, le Canadian Frontline Nurses, là, qui ont été taguées pour avoir été participées aux manifestations du Capitole. Déjà, ça donne une petite idée. C'est aussi deux organisatrices qui sont très, très, très impliquées dans les campagnes anti-avortement. Donc, il semble y avoir au sein de ce groupe-là des différences, là. La personne anti-vaccin qui dit, ben moi, j'ai peur de la vaccination parce qu'il y a quand même eu des cas, c'est 0,0007%, mais il y en a quand même eu, j'ai peur, etc., n'est pas la même personne que celle qui manifeste devant le Capitole puis devant les hôpitaux, là. Il y a des différences. Mais À savoir si donc c'est un amalgame de personnes, ceux qui seront rendus devant les hôpitaux puis qui sont on aurait empêché ou auraient ralenti le passage des personnes en chaise roulante. Là, on est dans une catégorie à part. On est dans le plus du plus du plus là. Puis cette catégorie-là à part, ben c'est une catégorie de personnes, je veux pas les qualifier, mais sans doute asociales. Il faudrait les regarder, ben, troubles de l'opposition. Voilà, c'est pas, ils représentent pas tous les anti-vaccins, mais par contre, ceux-là, on devrait essayer de les empêcher. Mais comment tu fais ça? Parce que le droit de manifester, c'est un droit qui est enchâssé dans la Constitution avec le droit de la liberté d'expression et la liberté de pétition, etc. Puis, il y a eu des réglementations pour contrôler une manifestation en 2012 lors du printemps érable. Et il y a P66, le règlement P66, qui est un règlement municipal mais autorisé par Québec, qui te permettait de rendre une manifestation illégale s'il ne te donnait pas le parcours de la manifestation ou s'il y avait des gens qui étaient...
Je vais donner un exemple où ça a été utile, là. Clinique d'avortement. Oui. Où il y avait des militants contre l'avortement qui allaient harceler le personnel qui rentrait au travail.
Sur le boulevard Saint-Joseph, direct devant la Morgan Tyler.
Oui, puis qui allaient harceler les femmes qui se dirigeaient pour tenter de les convaincre de ne pas se faire avorter. Ils ont obtenu quand même une protection de périmètre. Là. Puis ils ont déménagé, ils ont été obligés d'aller rechercher une nouvelle... Mais ce que je veux dire... Tu devrais pas avoir le droit de manifester devant un hôpital puis bloquer des accès. Tu devrais pas avoir le droit de manifester.
Oui, c'est ça. Mais alors, comment on fait ça? Donc, la question, il y a une députée de Nouveau Démocrate qui a dit, ben, il faudrait qu'on ait une bulle de protection. Ça s'appellerait une safety zone. Ça serait basé sur le fait suivant. C'est que les policiers ont le droit de mettre fin à une manifestation, comme tu le disais, Nathalie, s'il y a des risques des gens sont mis, genre, la sécurité des gens est mise en cause. Risques de blessures.
Intimidation, etc.
Alors, la police peut, par exemple, décider que, elle va contrôler le lien de, la marche des gens dans la rue à cause des questions de circulation. Elle peut décider aussi que, elle va mettre un cordon de sécurité entre deux groupes, comme par exemple des fascistes puis des antifascistes. Elle peut faire des choses comme celle-là. S'il y a violence, il y a eu violence ou il y a prévision de violence. Là, ils étaient sur le trottoir puis il n'y avait pas violence. Alors, comment tu fais pour contrôler ça? Ben, il va falloir dire le risque de violence est possible compte tenu de la fragilité des gens qui vont à l'hôpital. Le risque d'insécurité est possible compte tenu de la fragilité des gens qui vont à l'hôpital. Mais est-ce que ça va tenir devant la cour? Je ne suis pas certain.
Ah, mais attends,
tu as le droit d'y tenir à distance, tu dis.
Mais
oui, manifeste, oui, grand.
Ils vont être juste sur le trottoir d'en face. Ils vont être sur le trottoir d'en face.
L'exemple qui me vient en tête. L'exemple qui me vient en tête, là, des congrès de partis politiques, là, des manifestants, par exemple, une manifestation de syndicats, ils doivent respecter un périmètre. Ils peuvent pas s'approcher, attendre la porte, attendre des élus.
Comme
des
le G8 aussi. Comme le G8.
Oui, absolument. D'une part. D'autre part, bien heureuse, Paul, d'avoir entendu Éric Duhaime à ton micro un peu plus tôt, dénoncer ces manifestations. Il a pris soin de le dire. Tu lui as posé la question, est-ce que vous cautionnez ce genre de façon de faire? Il t'a dit non. Alors, je me dis, bon, mais ça progresse quand même du côté des opposants des règles sanitaires. Et l'autre chose, tu peux être un anti-vaccin. Moi, je respecte les gens qui choisissent de ne pas se faire vacciner. Je ne comprends pas, mais je les respecte. Par contre, là où la frontière est franchie, est transgressée, c'est lorsque tu es anti-vaccin et que tu décides d'intimider, d'empêcher des gens de se présenter à leur travail ou de leur faire peur devant
mais
un hôpital.
En plus, Nathalie, que là, il y a quelque chose...
Ça fonctionne pas.
C'est pas
là.
Juste une question de sécurité. C'est que c'est odieux. Parce que Pierre-Yves Blanchet, c'est Christian Dubé ou je ne me rappelle plus, un des deux, il disait, qui sont dans ces hôpitaux-là en train de se faire traiter contre la COVID? Ce sont des gens qui ont refusé le vaccin dans plus de 80% des cas. Donc,
c'est cynique quand même, hein?
C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, il y a des gens qui sont devant les hôpitaux pour empêcher de rentrer, des gens qui ont refusé de se faire vacciner mais qui sont malades. Ben, c'est extraordinairement bête. Alors, ça, c'est Dubé qui disait ça. Et lui, Blanchet, ce qu'il rajoutait, c'est de dire quand on va à l'hôpital, c'est pas parce qu'on a envie. Surtout dans par les temps qui courent, là, tu vas pas à l'hôpital parce que tu as envie d'aller à l'hôpital, il accepte personne. Là. Il essaie de libérer le plus de lits possible. Tu y vas parce que tu es arrivé au bout, là, à la limite. Là, tu en as vraiment besoin. Là. Alors, manifester devant un hôpital, on dit on ne tire pas sur l'ambulance. C'est une expression dans toutes les guerres, on ne tire pas sur l'ambulance. Mauvais jugement.
Très bien, merci. On vous retrouve demain.
C'est 23.